18h56, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony. Bonsoir, comment dit-on bonsoir en coréen? Est-ce que vous le savez?
Non,
comme
je dis
bonjour tout le temps, je vais essayer en coréen.
Je peux vous lire dans pas mal de langues, mais pas en coréen.
Allez, donc on sait qu'un missile nord-coréen a survolé hier le territoire japonais. Anthony, ce soir, ce que vous tentez de faire, c'est répondre à une question simple. Mais pourquoi tire-t-il?
Et oui, et surtout, pourquoi tire-t-il autant? Parce que 18 tirs de missiles courtes, moyennes, longues portées, voire intercontinentaux, et ce depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça fait beaucoup. Un véritable feu d'artifice, en somme, accueilli, vous avez probablement suivi, par des rodomontades états-uniennes et un renforcement des sanctions économiques contre le régime de Pyongyang. Et pourtant, Fabienne, il continue de tirer encore et toujours. Donc, pourquoi? Eh bien, la première raison du tir de la nuit dernière est assez circonstancielle. Tous les ans, la Corée du Sud et les États-Unis effectuent des manœuvres militaires communes. Et tous les ans, la Corée du Nord proteste contre ces manœuvres qui généralement frôlent la frontière entre les deux Corées. Et cette année, Pyongyang a donc protesté en klaxonnant, c'est-à-dire en envoyant un missile au-dessus du Japon.
Ce qui est quand même une drôle de manière de klaxonner. Ça peut pas être uniquement la démonstration de force quand même. Les tensions sont très vives, non?
Vous avez raison, vous avez raison. En envoyant ce missile, la Corée du Nord, comme toujours, délivre plusieurs messages à la fois. Premier message, nous possédons toute la gamme possible et imaginable des missiles de croisière. Autrement dit, toute l'Asie est à notre portée et nous ne faisons pas que tirer dans l'eau. Nous pouvons aussi viser juste au point de survoler le Japon et de finir deux mers plus loin dans le Pacifique. Donc, un premier message en forme d'avertissement. Deuxième message, vos sanctions économiques ne nous feront pas plier. Les dernières donc ont été adoptées le 14 août à l'ONU. Elles interdisent l'essentiel des exportations nord-coréennes. Et pourtant, nous tirons toujours. Le troisième message est plus subtil, lui. Il vise à internationaliser le problème en survolant le Japon pour la première fois depuis 2009. Eh bien, Pyongyang veut provoquer Tokyo.
Alors c'est réussi, quel intérêt de provoquer Tokyo donc?
Oui, parce qu'ils sont peut-être les seuls à prendre au sérieux Donald Trump, figurez-vous. Que dit le président américain? Qu'il compte sur Pékin et uniquement sur Pékin pour régler le problème et qu'en échange, le Donald est prêt à faire de très importantes concessions. Et qu'a-t-on constaté ces dernières semaines? Eh bien que la Chine a non seulement voté les dernières sanctions de l'ONU, mais qu'elle a commencé à les appliquer sérieusement. Et ça, c'est un véritable cauchemar pour le régime de Kim Jong-un. Le tête-à-tête avec la Chine, c'est exactement ce que veulent éviter les Nord-Coréens qui font donc tout pour ouvrir le jeu et pour obliger les États-Unis, par le biais de ses alliés, eh bien Japon et Corée du Sud, à ouvrir des pourparlers. Tout sauf Pékin seul.
Alors, je vous ai bien compris, Anthony, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer une bombe atomique pour ça?
Eh bien, eux pensent que oui, et l'histoire ne leur donne pas tort. L'Irak abandonne dans les années 90 son programme nucléaire et Saddam Hussein finit pendu. La Libye abandonne le sien dans les années 2000 et Kadhafi finit lynché. La conclusion est donc toute trouvée. La bombe, c'est l'assurance-vie des régimes dictatoriaux.